portrait de femme de notre matrimoine, de femme exceptionnelle de notre matrimoine avec Jacqueline Engrave, une émission hebdomadaire proposée, préparée et animée par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, c'est le 28e portrait et nous présentons une écrivaine française contemporaine proche de nous, Benoite Groult, G-R-O-U-L-T, née le 31 janvier 1920 à Paris de parents issus de la riche bourgeoisie parisienne. Son père, André Groult, est styliste de meubles. Sa mère, Nicole, c'est la sœur du grand couturier Jean Poiret et elle est styliste de mode. Elle a une sœur cadette, Flora. Ses parents attendaient un garçon qu'ils avaient prénommé Benoît. Ils ajoutèrent donc un E à ce prénom pour faire Benoite. Mais finalement, ils l'appelèrent Rosie, un nom de petite fille sage qui ne lui convenait pas et qu'elle changera plus tard, à 20 ans, pour reprendre son prénom de Benoite. Elle fut une fille docile mais réticente et très tôt, elle montra son goût pour l'écriture. Après avoir obtenu une licence de lettres à 23 ans, elle enseigne un temps au cours Bossuet. Mais le journalisme l'attire. Elle collaborera à divers journaux dits féminins, comme Elle, Marie-Claire, Parents, etc. Et à la radiodiffusion française aussi en 1944. En juin 1944, à 24 ans, elle épouse un étudiant en médecine, Pierre Heuyer, H-E-U-Y-E-R, mais qui mourra de la tuberculose quelques mois plus tard, un moment douloureux créant un grand vide dans son existence. Mais la libération de la France lui apporta aussi sa propre libération. Après une vie de stagnation, de privation et de peur pendant 5 ans d'occupation allemande. À la radio, elle rencontre Georges de Caune, un grand reporter qu'elle épouse en 1946 et dont elle a 2 filles en 2 ans, Blandine et Lison. Elle subit aussi, à cette période, plusieurs avortements clandestins, le sort des femmes de cette époque. Il divorce et, à 30 ans, Benoite se remarie avec Paul Guimard, G-U-I-M-A-R-D, écrivain et éditeur, un troisième mari merveilleux dont elle aura une troisième fille, Constance, en 1953. Ensemble, ils achètent en Bretagne une maison à rénover qu'ils conserveront toute leur vie et un bateau. Ensemble, ils émèrent la mer, les marées, les tempêtes, la pêche et, elle dit, les rondeurs du granit breton, puis l'Irlande. C'est à l'âge mûr qu'elle commence à écrire des romans, d'abord avec sa sœur Flora, sur la période de l'occupation allemande qu'elles ont vécue, Journal à quatre mains, en 1963, Féminin pluriel, 1965, Il était deux fois, 1967. Mais c'est en 1975 que paraît l'essai féministe, grand succès d'édition et phénomène de société, titré « Ainsi soit-elle ». C'est un livre de combat écrit dans l'enthousiasme qui comblait en elle l'envie de témoigner et de prendre place dans le champ de bataille du féminisme. Elle dit que pour elle, ce fut une seconde naissance. J'acquérais la conviction que l'émancipation des femmes, partout dans le monde, devait être le combat de notre siècle et du siècle suivant, dit-elle en 2008. Je n'ai été une citoyenne qu'à 25 ans, avec le droit de vote, et une féministe consciente qu'à 50 ans. Dans cet ouvrage, elle est la première à l'époque à dénoncer avec des mots forts la cruelle réalité des mutilations génitales féminines, l'ablation du clitoris et l'infibulation, cette torture infligée aux filles en Afrique, majoritairement, mais pas seulement, puisque, je cite, « cet organe est inutile à l'homme et à la procréation ». La découverte de cette pratique inimaginable dans les pires cauchemars m'avait servi d'électrochoc, dit-elle. Je suis passée du sous-développement savamment ourdi par nos seigneurs et maîtres, ce sont les hommes qu'elle appelle comme ça, à une révolte qui n'allait plus me quitter. Les femmes doivent être, dit-elle aussi, conscientes du fait que chaque femme soumise ou mutilée en tant que femme, même à 10 000 km d'ici, soumet et mutile toutes les autres. Ces pratiques cruelles n'ont pas disparu aujourd'hui. elle est restée extérieure aux différents mouvements féministes militants des années 1970. Mais son féminisme déclaré tardivement est une clé de lecture essentielle de son parcours. Elle a une démarche féministe explicite, dénonçant, toujours avec humour, la pensée rudimentaire des hommes en ce qui concerne le féminisme. Son humour, son franc-parler, son audace de ton ont été pour beaucoup dans le succès d'ouvrages traitant d'un phénomène sociétal aussi profond, ancestral et universel que la domination masculine sur les femmes dans tous ses aspects. Dans la foulée du succès d'Ainsi soit-elle, elle fonde en 1978 avec Claude Servan-Schreiber, l'épouse de Jean-Jacques Servan-Schreiber, directeur de journal, le mensuel féminin F Magazine, rédigé uniquement par des femmes, comme La Fronde autrefois. Ce magazine répondait à un vrai désir des lectrices parce qu'il proposait des articles intelligents sur la place des femmes dans le cinéma, par exemple, ou l'espace public, toute préoccupation toujours très actuelle, soit dit en passant. C'est un grand succès. Il est tiré à 200 000 exemplaires, mais deux ans après, en 1980, quand Jean-Jacques Servan-Schreiber déclare que le féminisme est passé de mode, Benoît de Groult et Claude Servan-Schreiber sont écartés. F Magazine est rebaptisé Le Nouveau F. Il redevient un magazine féminin de vieilles recettes, traitant de la beauté, la mode, la cuisine, etc. Tout ce dont traite aujourd'hui majoritairement la presse féminine. Un moment très important dans son parcours, Benoît de Groult a présidé pendant deux ans, de 1984 à 1986, la commission de terminologie pour la féminisation des noms de métiers, de grades et de fonctions dans la fonction publique. Une commission mise en place par Yvette Roudy, R-O-U-D-Y, alors première femme dirigeant le premier ministère des droits de la femme sous la présidence de François Mitterrand. Benoît de Groult a été choisi pour cette mission en raison de son action en faveur de la cause des femmes, toujours l'effet de « Ainsi soit-elle ». La commission est constituée de personnes hautement qualifiées, des linguistes éminents, des spécialistes de la graphie du français, d'une représentante du laboratoire de l'Université d'Angers, d'une représentante du dictionnaire Le Robert et d'un académicien. Appelée la commission Groult, son fonctionnement est exemplaire, son travail remarquable. Mais au dire même de Benoît, cette commission, parce qu'elle s'occupait du langage concernant les femmes, a été accueillie par, je cite, « un immense éclat de rire ». Le mépris misogyne pour son objet reprenant le dessus chez les dirigeants masculins, elle ne donna lieu qu'à l'apparition d'une simple circulaire en mars 1986, non contraignante, recommandant aux différents services de l'État de veiller à l'application des règles fixées par la Commission pour la féminisation des noms de métiers, grades, fonctions ou titres dans les services publics. L'effet fut quasiment nul, le travail saboté. Voici ce que Bernard Cerchiglini, C-E-R-Q-U-I-G-L-I-N-I, universitaire linguiste réputé, dans son livre « Le ministre est enceinte » ou « La grande querelle de la féminisation des noms », paru en 2018, dit à ce sujet, j'ouvre les guillemets, « On imagine mal avec quelle ironie, quel dédain, quelle hostilité fut accueillie la commission Groult. La réaction des académiciens de l'Académie française fut exemplairement violente, dit-il encore, avec force citation. Lassé, Benoît de Groult elle-même remarqua, je cite, « On est consterné par l'ignorance ou la mauvaise foi de ceux et celles qui feignent de croire que cette, entre guillemets, « commission des précieuses ridicules » créée par, entre guillemets, la cheftaine Roudy, dixit le quotidien de Paris, pour, entre guillemets, enjuponner le vocabulaire, dixit le Figaro magazine, va faire assaut de, entre guillemets, clitoracie, dixit François, et susciter des mots absurdes tels que cheftesse d'État, députrice ou majordame, entre guillemets, dixit libération. Cependant, en 2008, elle est optimiste car elle constate des progrès dans l'utilisation du féminin dans le langage parlé et écrit, progrès qui se confirment aujourd'hui. En 1982, Benoît est membre du jury du prix littéraire Femina. En 2011, elle fait don de ses archives au Centre des archives du féminisme à l'Université d'Angers. Une bonne nouvelle, cette université va ouvrir en 2027 le premier musée des féminismes en France, fruit, là encore, d'une longue bataille, ce qui aurait certainement réjoui Benoît Coult. Femme exceptionnelle de notre matrimoine, elle est décédée en 2016 à 96 ans, après avoir choisi sa mort. Dans son dernier livre, La touche étoile, paru en 2006, elle s'indigne des propos qu'on lui tient sur la mort. Elle est inhumée à Hyères-les-Palmiers, son dernier domicile. Alors, son œuvre, tous les livres déjà cités, et puis La part des choses en 1972, son premier livre en solo, Les vaisseaux du cœur en 1988, Mon évasion en 2008, autobiographie, Ainsi soit Olympe de Gouges, Pauline Roland ou Comment la liberté vient aux femmes en 1991. Des hommages lui sont rendus. Elle est grande officière de la Légion d'honneur et grande officière de l'Ordre du Mérite. La ville de Roanne l'a nommée citoyenne d'honneur le 7 mars 2010. Et en 2013, une bande dessinée Ainsi soit Benoît Groult lui a été consacrée. Ailleurs, la salle audiovisuelle du Parc Hôtel porte son nom. À Quimperlé, la salle communale aussi. Et une des bibliothèques de Paris dans le 14e porte aussi son nom. Donc les sources... Deux de ses livres, bien sûr, très importants, que j'avais lus en leur temps, Ainsi soit-elle, 1975, édition Grasset, Mon évasion, autobiographie, édition Grasset, 2008, Le ministre est enceinte, ou La grande querelle de la féminisation des noms, de Bernard Cerchiglini, édition du Seuil, 2018. Et pour ce qui est de la féminisation, ou plus exactement de la démasculinisation de la langue française, on peut se référer aux ouvrages d'une spécialiste, Eliane Viennot, tel le petit livre intitulé « En finir avec l'homme, chronique d'une imposture ». Ce livre est l'histoire d'un abus de langage qui a hissé le mal de l'espèce au rang de représentant absolu de l'humanité. Et en 2016, dernière précision, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, créé en 2013, a fait paraître un guide pratique intitulé « Pour une communication publique sans stéréotypes de sexe », édition La Documentation française.
Jacqueline Engrave, merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne journée à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.